Chapitre 54 du prophète Ésaïe. Encore une fois, nous arrivons dans une partie du livre d'Ésaïe qui est absolument sublime. Toute la Bible est sublime, car c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est sa révélation, c'est son exhortation, c'est son encouragement. Mais ces passages du prophète Ésaïe sont cité de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Nous avons vu au fin du chapitre 52 et 53 le chant du serviteur qui est une description plus détaillée que certains évangiles de la souffrance de Jésus pour nos péchés, pour nous, par amour pour nous. Lui qui a intercédé pour les coupables que nous sommes, qui s'est fait compter parmi les coupables, qui est mort. Nous voyons le fruit de ce sacrifice. Le prophète parle à l'avance à ses contemporains de l'exil qu'ils vont souffrir à Babylone, qu'ils vont endurer. Et puis il leur promet la délivrance. Nous verrons au chapitre 55 qu'il offre le salut à tous. Lisons ensemble au chapitre 54, à partir du verset 1. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cri de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse, ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a faite est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée dont l'esprit est affligé. La compagne de jeunesse peut-elle être répudiée, dit ton Dieu ? Arrêtons-nous là pour quelques instants. En Israël, à l'époque de la Bible, des temps bibliques, c'était une grande honte, un grand déshonneur pour une femme de ne pas pouvoir avoir des enfants. Vous vous souvenez des passages, la maman de Samuel, Anna, qui priait dans le temple pour qu'elle puisse avoir un enfant, d'autant que la deuxième femme de son mari se moquait d'elle. C'était vraiment un sujet de honte. Et il compare Israël à une femme qui n'a plus d'enfants parce qu'elle est partie, là il voit la vision qu'elle est partie en esclavage, en exil à Babylone. Et il prédit qu'en fait, cette femme, pour ainsi dire délaissée, elle va avoir des enfants plus nombreux que celle qui est mariée, dit l'Éternel. C'est intéressant, c'est un passage qui va être utilisé par Paul dans le livre de Galates, dont Jordan nous parlera, j'en suis persuadé, en détail. La délaissée, c'était Israël, mais elle va avoir des enfants, elle va avoir des héritiers, il va y avoir un grand peuple qui va ressortir après l'exil, quand il va y avoir un retour. Et il dit même, il conseille même à Israël d'élargir l'espace de sa tente, de déployer les toiles, d'allonger les cordages. L'idée, c'est qu'il va y avoir tellement de monde qui va suivre l'Éternel, qui va vraiment être un peuple dont l'Éternel est roi, qu'il va falloir faire de la place. On utilise aujourd'hui souvent ce verset pour dire que l'Église grandit, il va falloir agrandir les locaux, il va falloir agrandir le nombre de lieux de culte. Et je crois que c'est une promesse raisonnable, le Seigneur va encore se faire connaître. Je crois qu'avant son retour et la grande tribulation, il a à cœur de toucher le plus grand nombre de gens possible. C'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis de donner un territoire à son peuple, la terre promise, mais en fait, au plus fort de l'étendue du royaume d'Israël avec Salomon, il n'y avait que à peu près un territoire de 70 000 kilomètres. Alors qu'en fait, le territoire que Dieu avait promis à Abraham, de l'Euphrate à la Méditerranée, de l'Arabie jusqu'au nord, représentait 800 000 kilomètres carrés. Donc au plus fort de leur expansion, de leur gloire, de la gloire du roi Salomon, il n'y avait même pas 10% du territoire qui était promis par Dieu. Aujourd'hui, Israël fait 21 000 kilomètres carrés. C'est un tiers du territoire, et encore c'est après avoir pris quelques territoires en Cisjordanie. Maintenant, il y a des territoires qui sont redonnés aux Palestiniens ou confiés aux Palestiniens, donnés, pas redonnés. Mais on voit par cet exemple que souvent nous manquons de foi pour les choses que Dieu nous promet. Dieu veut nous donner beaucoup, Dieu nous donne beaucoup, et nous, par manque de foi, on prend juste un petit peu. Un peu comme Michael disait, il avait trouvé son petit studio, il pouvait mettre une chaise, peut-être deux chaises pliantes debout, mais s'il en dépliait, il n'en dépliait qu'une. Alors que le Seigneur avait un appartement beaucoup plus grand. Et dans notre vie de chrétien, nous aussi, nous nous laissons cantonner dans un petit domaine. On se dit, je peux pas avoir un témoignage très puissant, je suis pas pasteur, j'ai pas fait d'études, je suis pas... Ça, ce sont des mensonges de l'ennemi qui veut vous limiter. Il y avait quelques années, il y a un livre qui est paru qui s'appelait « Votre Dieu est trop petit ». Your God is too small. Par là, l'auteur voulait dire que le Dieu auquel nous parlons, le Dieu auquel nous pensons, nous l'avons réduit, nous l'avons limité. Alors qu'en fait, il est tout puissant, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser secrètement. Il a des plans formidable. Et ces plans, c'est vrai, c'est souvent par la prière qu'on les rencontre, c'est par la prière qu'on les réalise. Et il y a cette belle image que dans le ciel, il y a les anges qui sont dans un entrepôt où il y a des tas de colis que nous n'avons jamais appelés. Des choses que le Seigneur veut nous donner que nous ne lui demandons même pas. Est-ce que vous pouvez lui demander de faire un réveil dans votre famille? Oh, il y a peut-être la grand-mère qui est assez ouverte, mais le reste de la famille, ils sont fermés, pas question. Pourquoi? Il a pu amener des gens beaucoup plus durs que le reste de votre famille non chrétienne, vos collègues de travail, votre profession, toutes ces choses-là. Faites confiance à Dieu, demandez-lui de faire de grandes choses, parce que Dieu n'est pas un Dieu des petites choses. Petit avertissement, ces grandes choses, c'est pas pour votre gloire, c'est pour sa gloire. Et souvent, il ne nous donne pas de grandes choses parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables de les recevoir sans penser qu'on est vraiment spécial. Sans penser qu'on a... On a été appelé par Dieu. Parce que je suis un homme spécial. Je suis un homme de Dieu. Encore une fois, l'humilité dans tout ce que Dieu vous permet de vivre, dans tout ce que Dieu vous permet de faire, c'est la clé pour qu'il continue à vous donner davantage et qu'il continue de vous utiliser. Si vous prenez sa gloire, il va vous mettre sur l'étagère très rapidement. Sois sans crainte, verset 4, car tu ne seras pas honteuse. Encore une fois, là, on dit qu'il y a 365 ou 366 passages dans la Bible où Dieu nous dit « n'aie pas peur, ne crains rien ». S'il nous le dit aussi souvent, c'est qu'il sait que nous sommes tellement sujets à la peur. Là, il s'adresse à son peuple d'Israël en lui disant « sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse, ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée ». Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Là, on pense que la honte de la jeunesse de son peuple, c'était peut-être l'exil en Égypte, et le déshonneur de son veuvage, c'était l'exil à Babylone. Israël est comparé à une épouse. L'Église est comparée à une épouse. Les noces de l'agneau dans l'Apocalypse avec son Église. On a l'impression des fois qu'il y a le mariage et puis Dieu utilise l'illustration du mariage. Non, je crois que c'est l'inverse qui est vrai. Il y a la relation avec Dieu et Dieu a institué le mariage pour que nous ayons une petite aperçu de ce que c'est qu'une relation d'intimité, de confiance, d'amour, de une relation qui porte du fruit. Et encore une fois, la sexualité, le diable essaye de la détourner, mais c'est Dieu qui l'a inventée. Il aurait pu très bien choisir, et vous m'avez entendu plus d'une fois le dire, décider qu'on se, les humains se reproduisent par bouturage. Il y a des plantes qui se produisent par bouturage. On coupe un petit bout de la plante, on le plante dans de la terre, et pof, elle repart. Et on pourrait faire comme ça, et les gens qui ont 10 enfants, on verrait leurs mains, il n'y aurait plus de phalanges, ils auraient été replantés. Dieu aurait très bien pu faire ça pour nous, mais il avait un autre plan, il voulait nous donner un avant-goût de la relation avec lui. Et le diable... qui veut tout à fait éviter qu'on ait cette aspiration, cette joie dans notre relation avec Dieu, il prend la sexualité inventée par Dieu et il la déforme. Il en fait quelque chose de sale, il en fait quelque chose de honteux, il en fait quelque chose de servile, de commercial. Tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Encore une fois, une femme... seule, dans les temps bibliques, c'était une honte. Parce qu'elle n'avait plus de ressources. Elle ne pouvait pas aller à la NPE pour chercher du travail. Elle était laissée sans ressources. Vous vous souvenez que les apôtres prenaient soin des veuves. Parce que justement, dans cette culture, il n'y avait pas de sécurité sociale. La sécurité sociale, en fait, c'était... la compassion des gens, c'était l'amour des gens, c'était le peuple lui-même. Celui qui t'a fait est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, est ton Rédempteur et le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées célestes, Dieu a des ressources de puissance dont on ne peut même pas soupçonner l'étendue, la portée. Ce que Jésus disait, si je voulais, je pourrais appeler des légions d'anges et me défaire de l'ennemi romain qui veut me crucifier. Celui qui t'a faite est ton époux. Ça, c'était la relation de Dieu avec son peuple. C'est une relation comme d'un mari avec une femme, d'une intimité, d'un partage, d'un soutien sans faille. L'époux d'Israël et l'époux de l'Église, c'est celui qui nous a fait, c'est celui qui a fait Israël. C'est celui qui nous connaît. Pour les hommes qui sont bricoleurs, lorsque vous faites quelque chose, vous fabriquez un petit instrument, un truc pour tester le courant, c'est vous qui mettez les diodes, etc. Vous savez exactement comment ça fonctionne. S'il y a un problème, vous savez le réparer tout de suite. Vous comprenez tout de suite où est le problème. Pour vous, mesdames, les recettes de cuisine, vous savez exactement ce que vous avez mis dans le cake aux olives. Il y avait du fromage, mais vous n'avez pas mis n'importe quel fromage. Vous avez mis du comté qui a bon goût. Vous connaissez. Vous pouvez comprendre ce qui se passe. Et Dieu qui nous a fait, il sait exactement ce qui se passe en nous. On a souvent l'impression qu'on est loin de lui, qu'il peut pas nous comprendre. Bien sûr, il règne dans les cieux, il est loin. Non, il vous a fait. Remercions le Seigneur qu'il est en train de faire de former des enfants. Nous avons une liste de gens pour lesquels nous prions. Si vous savez que ça va vous arriver cette année, faites-nous le savoir, pour qu'on prie pour le travail que Dieu est en train de faire en vous. Il est le Rédempteur. Le Rédempteur, on a vu, on en a parlé déjà dans Ésaïe, c'est le proche parent qui peut vous racheter de l'esclavage, du manque de postérité, ou qui peut racheter vos propriétés que vous avez dû vendre. C'est trois choses. C'est un proche parent qui est d'accord pour le faire, qui a envie de le faire. Et on a vu comment ce terme de rédempteur, de goël, de proche parent, Jésus, c'était une préfiguration, c'était une description de Jésus lui-même, qui s'est fait homme. Il est devenu notre frère. Il est un proche parent. Il a la puissance. Cette puissance de l'Éternel des armées est la sienne. Il a non seulement la puissance, la relation de proche parent, mais il le veut bien. C'est lui qui s'est offert en sacrifice pour nous. On ne l'a pas forcé. C'est par amour pour nous qu'il s'est offert. Et il nous rachète de l'esclavage du péché. Il nous donne une postérité, tous les chrétiens que nous pouvons encourager, ceux que nous pouvons amener à Christ, c'est aussi une postérité. Et nous sommes devenus un peuple pour lui, un sacerdoce royal. Ça, c'est parce que Jésus est ce Rédempteur. Il est aussi le Saint d'Israël. Israël, encore une fois, c'était la suite de Jacob. Jacob, c'était le tricheur, c'était le manipulateur. C'est ce que voulait dire son nom. Il est devenu celui qui est régi, qui est gouverné par Dieu, Israël. Et nous aussi, nous sommes appelés à devenir des Israël, des gens qui sommes régis, qui sommes gouvernés, qui sommes menés par Dieu. Et il se nomme Dieu de toute la terre. À l'époque, les dieux étaient locaux. Un peu comme aujourd'hui, dans les campagnes françaises, il y a telle église qui a le nom d'un saint, donc on pense que ce saint Baptiste, ce saint Jean-Baptiste, ben, il aime bien son village, il est plus proche des gens. À l'époque, il y avait aussi des divinités qui étaient localisées. Et c'était révolutionnaire qu'il y ait un seul Dieu qui soit le Dieu de toute la terre. Certains aujourd'hui disent, bon, mais c'est bien votre christianisme, mais c'est passé. Et puis, laissez les musulmans être musulmans, ils ont leur religion. Pourquoi est-ce que vous essayeriez de leur imposer votre Dieu? On leur impose rien du tout, on leur dit, on leur fait connaître le seul vrai Dieu. Le Dieu de toute la terre. Il se nomme Dieu de toute la terre. Est-ce que vous aimeriez avoir un époux comme ça? L'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée, dont l'esprit est affligé. C'était un sujet de tristesse, parce que s'il poursuivait cette analogie, c'est comme si Dieu avait été leur époux, et puis, devant leur infidélité, leur idolâtrie, Dieu les avait rejetés, Dieu les avait abandonnés. Mais Dieu leur rappelle qu'il abandonne jamais ses enfants. Il dit qu'il ne peut pas répudier la compagne de sa jeunesse. Deux choses sur le thème de l'époux. Pour les personnes qui ne sont pas mariées encore, peut-être que le Seigneur a mis dans votre cœur le désir d'épouser un mari ou d'épouser une femme si vous êtes un homme. Sachez que tant que vous n'êtes pas marié, même quand vous êtes marié, Dieu est votre époux. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas tout seul. Dieu est votre époux. C'est lui qui va pourvoir à vos vrais besoins, les plus profonds, le sentiment d'être aimé, d'avoir une raison de vivre, d'avoir quelqu'un qui va pourvoir à tous vos besoins, matériels, spirituels, émotionnels. Alors vous dites, c'est bien beau pour vous qui êtes de dire ça quand vous êtes mariés, mais en plus, on continue de prier pour les demoiselles, là, qu'il y ait plus de jeunes chrétiens là, qui arrivent à l'église. Mais la même remarque s'applique aux femmes qui sont mariées, aux hommes qui sont mariés à une épouse. C'est pas votre conjoint qui va répondre à tous vos besoins. Si vous partez dans le mariage avec cette vision, je peux garantir que l'atterrissage va être douloureux. Votre conjoint, votre conjointe ne sont que des pécheurs, pardonnés par Dieu s'ils sont chrétiens, et ne mettez pas toutes vos attentes sur cette personne. Voilà, je vous laisse prier, réfléchir sur ces choses. Verset 7, « Un court instant je t'avais abandonné, mais avec une grande passion je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Intéressant. Ça parle de nos épreuves. Paul, peut-être s'inspirant de ce passage ou sous l'inspiration de l'Esprit Saint, mettez les choses en perspective. Quand on est dans l'épreuve, on a l'impression que ça dure, que ça traîne. Et c'est vrai qu'une expérience très simple, Une demi-heure sous la roulette du dentiste paraît beaucoup plus longue qu'une demi-heure à voir la première partie d'un film. L'épreuve, on a l'impression qu'elle est là et qu'elle ne va jamais se terminer. Et pour Dieu, son point de vue, c'est que c'est un court moment. Vous pouvez peut-être vous souvenir des moments dans votre vie de douleur, peut-être que vous êtes dans la douleur maintenant. Pendant l'épreuve, ça paraissait interminable. On avait l'impression que ça allait jamais s'arrêter. Avec le bénéfice du recul, maintenant vous pouvez voir qu'en fait ça n'a duré qu'une saison. Ça a été un court instant. Tout est relatif, c'est par comparaison. Est-ce qu'une heure c'est long ? Ça dépend qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure. Ça dépend à quoi on compare cela. Paul disait, je vous invite à vous y tourner, dans 2 Corinthiens 4, versets 16 et suivants, il expliquait que, encore une fois, Paul se vantait de ses souffrances ou de son apostolat, du fait que c'était un vrai apôtre, comme dans le livre aux Galates, dans Corinthe, il y avait des gens qui mettaient en cause sa capacité, son autorité à parler, à enseigner les gens. Et ce qui pourrait paraître comme de l'orgueil, où Paul se vante de ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a subi, c'est en fait pour protéger le message qu'il a apporté. Le message de l'Évangile, c'est la plus grande chose qui soit. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Et pour que rien ne se mette en travers de l'annonce de l'Évangile, il était prêt à reprendre ceux qui le critiquaient en leur rappelant que lui, il avait des raisons de parler avec autorité parce qu'il avait tellement souffert. Et dans les versets 7 à 15, il parle de toutes les épreuves. Il parle du trésor qu'il tient dans ce vase de terre, c'est-à-dire son corps. On va lire à partir du verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière mais non écrasés, désemparés mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ afin que la vie de Jésus-Christ, de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. » Dans un autre passage, il explique toutes les épreuves qu'il a vécues. L'emprisonnement, le naufrage, les persécutions des frères, les faux frères. Et puis, il met les choses en perspective. Verset 13, il dit « Comme nous avons le même esprit de foi selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, et nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Toutes ces souffrances, il sait que c'était pour une bonne cause, ça voulait dire la mort pour lui, mais ça voulait dire la vie de ceux à qui il avait communiqué le message de la vie, le message de l'Évangile. Et puis il ajoute, verset 16, et c'est là que je voulais en venir, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, vous prendrez de l'âge, vous qui êtes encore tout jeune, vous verrez que votre corps n'a plus les mêmes capacités, la même ressource. Notre homme extérieur se détruit progressivement. Il y en a pour qui c'est plus avancé que d'autres. Mais notre homme intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour. » Et puis, il met les choses en perspective, verset 17, « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » vos souffrances, votre épreuve, si elle est dans le but de glorifier Dieu, si dans cette épreuve vous glorifiez Dieu, vous servez Dieu, ça va produire un poids éternel de gloire. Le poids, c'est quelque chose qui est solide. C'est l'idée d'une gloire qui va pas être futile, d'une gloire qui va pas être là un jour, partie le lendemain. Non, vous allez participer à cette gloire de Dieu. Et il ajoute, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Israël a beaucoup souffert en exil. C'était prophétisé par Ésaïe, ça a été vécu à la lettre. Mais pour Dieu, il dit à son peuple, pour un instant, je t'ai abandonné. Certains pensent que peut-être cet instant, c'est le temps de l'Église, cette parenthèse de l'Église, où découragé de voir que son peuple le rejetait, Dieu est venu se révéler au monde entier, chose qu'il avait demandé à son peuple de faire et qu'il n'avait pas fait. Et puis il va enlever l'Église avant la période de la grande tribulation. Mais peu importe, il met les choses en perspective. Il dit « Vos souffrances, ce n'est qu'un court instant. » Est-ce que vous le voyez ça? Est-ce que vous pouvez être d'accord mentalement? Après, vous pouvez prier pour que dans les épreuves, et c'est pas une question de s'il y aura des épreuves, il va y avoir des épreuves. Nous vivons dans un monde entaché par le péché, et tôt ou tard, nous aurons des épreuves. On aura l'impression peut-être qu'on ne pourra pas les surmonter, ces épreuves, mais Dieu nous dit, je suis là, il nous promet d'être avec nous dans l'épreuve, et là, il promet une grande compassion après l'épreuve. Il avait dérobé sa face, il avait caché son visage dans un moment d'indignation, de voir son peuple retourner à l'idolâtrie des fois après fois. Il avait décidé de fermer son visage, de plus les voir. Mais avec un amour éternel, il va avoir compassion de son peuple. Il avait promis, après le déluge, que plus jamais il n'y aurait un déluge qui engloutirait la terre. Et il a tenu sa promesse jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison de mettre en doute sa parole. Il jure solennellement qu'il ne va plus s'indigner, ne plus menacer son peuple. Ils ont souffert. Il dit que sa bienveillance, c'est le mot hébreu « hesed » qui est l'équivalent le plus proche de la grâce, du mot de grâce. Cette faveur de Dieu qu'on ne mérite pas, qui ne dépend pas de l'objet de l'amour, mais qui dépend de la source de l'amour. La bienveillance, cette grâce, elle ne va pas être enlevée, elle ne sera même pas ébranlée, elle ne sera même pas touchée. L'alliance de paix, elle ne va pas chanceler. Et il dit, imagine que les montagnes, que le mont Chauve commence à bouger, que l'Archas commence à trembler. C'est possible, il y a des tremblements de terre. Mais ma grâce envers toi, peuple d'Israël, ma grâce envers toi, enfant de Dieu par le sacrifice de Jésus, elle ne va jamais cette grâce être affectée, jamais ébranlée. Et puis il voit toujours cette idée que dans les prophètes ont plusieurs plans, plusieurs écrans qu'ils regardent. Il y a l'écran tout près, puis un écran plus loin, puis un écran plus loin. Là, c'est comme s'il saute au temps de la fin. Jésus va revenir, il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Et la description qui suit, c'est un peu ce qui sera le futur de Jérusalem. Zion, Jérusalem, le peuple de Dieu, tout ça, ce sont des équivalents pour parler du peuple juif à qui il a confié les oracles, en qui il est venu s'incarner en Jésus. Malheureuse battue par la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres de stuc et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Suivant les traductions, les noms peuvent changer, mais vous voyez l'idée, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de très cher, de très beau. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre, et de la terreur, car elle ne s'approche pas de toi. Elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Merveilleuse promesse que l'on retrouve en prophétie, mais plus proche de l'accomplissement, dans la prophétie de Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 21 plutôt, lorsqu'il voit la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. On peut regarder 21:10. C'est un des anges qui emmène Jean en vision sur une grande et haute montagne et il lui montre la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Verset 11, elle avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges, des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et il continue la description d'une... Verset 19, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, etc. Juste des noms de pierres précieuses qu'on, pour la plupart, on n'est pas tout à fait sûr de la nature avec... Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Dieu veut vous encourager. Dieu voulait encourager son peuple en leur disant « Vous vivez, vous allez vivre l'exil, ça va être terrible. Vous allez avoir l'impression que Dieu vous a abandonné pour toujours. Vous serez plus capable d'élever des familles nombreuses. Vous n'aurez plus d'enfants. Vous aurez le sentiment d'être abandonné. Sachez que ce n'est qu'un court instant. » Qui a un poids éternel de gloire, de pierres précieuses. Alors, est-ce que ce sont des pierres précieuses que nous verrons, ou c'est pour dire que ces choses qui sont si précieuses maintenant, ce sera quelque chose de très commun. Les rues de la Nouvelle Jérusalem seront pavées d'or. On se dit, waouh, on pourra en ramasser, le mettre dans la poche et aller à la banque avec ça. Non, ça voudra dire que ce à quoi on attache de la valeur aujourd'hui, ça sera pareil à du goudron. L'or, on l'utilisera là-bas comme du goudron, comme du macadam. Et toutes ces choses, c'est pour dire que nous pouvons faire confiance au futur que Dieu nous promet. Encore une fois, la peur est une des grandes motivations de nos vies. Nous vivons toujours dans la peur de quelque chose, de quelqu'un. Il veut nous rassurer. Il veut rassurer Israël en disant qu'il a, créé les gens qui sont en train de fabriquer les Kalachnikovs. Les gens qui soufflent, là, il parlait des armes que les ennemis étaient en train de fabriquer avec la forge, en train de souffler sur, fabriquer des instruments pour détruire son peuple. Mais il dit, j'ai aussi créé le destructeur pour le briser. Et peut-être vous connaissiez ce verset, vous l'avez entendu, mais c'est là qu'il se trouve. J'aime bien Isaïe parce qu'il y a plein de versets qu'on connaît, on a entendu, mais on ne sait pas trop où ils sont dans la Bible. Si vous ne savez pas, venez voir dans Isaïe. Souvent, c'est là parce que c'était un des livres les plus utilisés, les plus cités. Tout instrument de guerre qui est fabriqué contre vous, vous dites, oh là là, ils sont en train de préparer, de construire des Kalachnikovs. Al-Qaïda est en train de fabriquer des bombes avec des clous et des bouteilles de gaz. Il y a des bombes atomiques qui se préparent en Iran. Oh, on doit avoir peur. On doit faire quelque chose. Dieu dit, faites-moi confiance. Tous ces instruments seront sans effet contre vous. Alors vous n'avez peut-être pas peur de la mort, du danger physique, des blessures, des coups. Mais peut-être que vous avez peur des paroles, des médisances, des calomnies. Toute langue, il nous dit, qui s'élèvera en justice contre toi, sous-entendu, on vous accusera de certaines choses en justice, elle sera convaincue de méchanceté. Elle n'aura pas le dernier mot. Ça, c'est la justice qui vient de Dieu. C'est une nouvelle alliance de paix qu'il établit avec Jérusalem, avec son peuple d'Israël. Vous avez souffert, vous allez souffrir plutôt, c'est de la consolation dans le futur. L'exil est annoncé, donc l'exil est futur, mais il va encore plus loin. Vous allez en baver, mais vous allez être réconforté de façon absolument fantastique, de façon incroyable. Et il nous dit, à la fin du verset 17, « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Donc ces promesses merveilleuses qu'on a hâte de proclamer, de dire ben, « ça m'appartient », en fait, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les serviteurs de l'Éternel. La question, c'est donc de savoir, est-ce que je suis un serviteur de Dieu ? Alors, il y a des fois dans les annuaires chrétiens, on parle des serviteurs de Dieu pour désigner les pasteurs. Mais il n'est pas question de termes honorifiques, il est question de réalité de vie. Est-ce que, quand vous vous levez le matin, vous dites, tiens, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? Ou, tiens, qu'est-ce que Dieu veut me faire faire aujourd'hui ? Et on peut être, entre guillemets, serviteur de Dieu, pasteur, missionnaire, à temps plein ou pas. Et en fait, avoir son propre agenda. On peut avoir ses priorités, ses... Je dois confesser, ce matin, Munji m'a appelé parce qu'il pensait qu'il y avait de la neige. Et j'ai pas demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas le temps d'aller chercher la voiture pour aller le chercher. Mais je suis heureux, il est arrivé, il a pas glissé dans la neige. Mais c'est ça. Est-ce que c'est ma volonté ou sa volonté? C'est la différence entre un serviteur et quelqu'un qui a entendu parler de Dieu et qui aimerait bien recevoir les bonnes choses sans avoir à servir sans avoir à donner. Ce passage nous montre que Dieu réconforte son peuple en lui parlant du futur. Mais ce peuple ne peut pas être réconforté s'il ne connaît pas ce que Dieu lui promet. Nous ne pouvons pas être réconfortés dans nos vies si nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les promesses de Dieu, si nous ne connaissons pas sa parole, encore une fois. Ce n'est pas simplement pour avoir une connaissance, une érudition, on dirait, mais c'est pour connaître le Seigneur que l'on veut étudier la Bible, qu'on vous encourage à l'étudier, à la mémoriser, à la mettre en pratique. Quand on la met en pratique, elle devient plus réelle. On n'a plus besoin de se gratter la cervelle pour se rappeler du passage, on l'a vécu. Il veut vous réconforter, mais si vous ne connaissez pas ses promesses de réconfort, vous n'allez pas être réconforté. Dieu veut établir une alliance éternelle. On sait que Jésus a dit que cette nouvelle alliance était faite en son sein, par le fait qu'il avait souffert et qu'il avait pris la responsabilité de la rédemption à lui tout seul. L'Ancien Testament, c'était « je vais arrêter de pécher ». Le Nouveau Testament, c'est « je reconnais que je suis un pécheur et je viens à la croix ». La croix va me transformer. La croix va me donner la victoire. Et on rejoint l'enseignement de Galates. Encore une fois, je vous encourage à étudier la Bible de plusieurs fois, de plusieurs angles dans la semaine. Vos lectures personnelles, un sermon peut-être le dimanche, une étude dans la semaine, des études avec des étudiants au GBU. Toutes ces choses font que Dieu, au lieu d'avoir seulement un moment pour vous toucher, il va pouvoir confirmer le message tout au long de la semaine. Il y en a qui ont déjà eu cette expérience? C'est formidable. On dit, ben, décidément, le Seigneur veut me dire quelque chose. Parce qu'on lui donne des opportunités pour nous parler. Si on lui dit, il y a les Jeux Olympiques, désolé Seigneur, il va dire, bon, amuse-toi bien. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est une autre promesse qu'on voit dans la Bible et qui rejoint ce que que Dieu nous promet par Ésaïe ici. On a vu avec Jordan que le salut, encore une fois, l'évangile, il est pour les juifs et il est pour les non-juifs. Il est pour toute la terre. Notre Dieu est le Dieu de toute la terre. La colère de Paul contre les judaïsants qui essayaient de faire revenir les croyants à des traditions juives. On peut penser que c'était lorsque Pierre est repris par Paul parce qu'il arrête de manger avec les païens, lorsque des juifs arrivent. On peut penser que c'est qu'il se met en colère contre l'hypocrisie de Pierre, mais Jordan faisait remarquer qu'en fait il se mettait en colère contre la limitation du message qu'il avait apporté. C'est-à-dire qu'il y avait un message qui était fait pour les juifs, et puis les autres, c'était pas la même chose. Non, tout le monde est invité à la table de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, dans un des plus beaux passages de la Bible, Ésaïe 55. Vous avez des Bibles qui s'appellent, une maison d'édition qui s'appelle Ésaïe 55, parce que c'est l'évangile annoncé par Dieu lui-même. C'est Dieu qui va nous appeler, c'est Dieu qui va nous interpeller, et la bénédiction qu'il donne, les promesses qu'il donne dans Ésaïe 54, on va voir qu'en fait, il les étend à toute la planète, à tous les hommes, aux bouddhistes, aux athées, aux musulmans, aux païens pécheurs qui se complaisent dans leurs péchés. Dieu veut tellement communiquer ce message de l'Évangile. Ne lui faisons pas obstacle en ne vivant pas d'une façon digne. Mais encore une fois, c'est lui qui va nous donner la force. Ce n'est pas nos petites forces qui vont nous permettre d'être à la hauteur. Amen.